Radio Vatican, Français Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme. L'éducation est l'un des moyens les plus efficaces pour rendre notre monde plus humain. C'est cette parole du pape François qu'a répété le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, au sommet sur la transformation de l'éducation au siège de l'ONU à New York. Nous y revenons en détail après les titres. Des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ont été probablement commis en Éthiopie, selon un nouveau rapport destiné au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le chef de la diplomatie tchadienne a rendu son tablier alors que le dialogue national convoqué par les autorités de la transition se poursuit. Voilà pour les titres, les détails c'est tout de suite dans ce programme que nous émettons depuis la cité du Vatican.
Radio Vatican, Français Afrique, Christian Combé.
L'éducation est l'un des moyens les plus efficaces pour rendre notre monde plus humain. Citant le pape François, le secrétaire d'État du Saint-Siège s'est dit confiant sur l'avenir des parcours éducatifs tant qu'ils promeuvent les valeurs de respect, de dialogue et de solidarité. Le cardinal Pietro Parolin s'est exprimé lundi lors d'un sommet sur la transformation de l'éducation au siège de l'ONU à New York. Pour le pape François, a souligné le cardinal secrétaire d'État, il est important d'initier sans crainte un processus de transformation et de regarder l'avenir avec espoir. Le Saint-Père invite tout le monde, jeunes, enseignants, décideurs politiques et sociétés civiles, à être les protagonistes de cette alliance en s'engageant au niveau personnel et social à cultiver ensemble le rêve d'un humanisme solidaire répondant aux attentes humaines et aux projets de Dieu. Le Saint-Père a rencontré lundi dans le palais apostolique le second groupe d'évêques récemment ordonnés et ayant participé à la formation organisée à leur intention par les dicastères pour les évêques et pour les églises orientales sur le thème « Annoncer l'évangile dans les temps qui changent et après la pandémie, le service de l'évêque ». Une rencontre ponctuée de témoignages, de suggestions et d'encouragements à servir les pauvres, après quelques journées passées à apprendre comment être évêque, quels défis relever, quels thèmes approfondir. Ils étaient environ 200 nouveaux évêques. Un premier groupe avait suivi la même formation du 1er au 8 septembre dernier. Direction l'église Famille de Dieu en Afrique. La conférence épiscopale du Burkina Niger CEBN a ouvert samedi dernier la nouvelle année pastorale par une session de rentrée administrative du personnel de ses services et structures. Animée par Mgr Laurent Dabiré, président de la conférence, cette session a été placée sous le signe de la collaboration et de la synodalité. Paul Da pour nous en parler.
Pour la nouvelle année pastorale 2022-2023, le président de la conférence épiscopale Burkina-Niger, CEBN, Mgr Laurent Dabiré, évêque de Douri, a animé une session de rentrée administrative du personnel des services et structures de la CEBN. Cette session, tenue le samedi 17 septembre 2022 au Centre national Cardinal Paul Zungrana à Ouagadougou, a regroupé une cinquantaine de participants délégués des différentes structures et services de la CEBN. Mettant en perspective la dite session avec le synode sur la synodalité en cours de préparation, Mgr Laurent Dabiré a invité chacun des employés de la CEBN à reprendre à son compte les questions synodales suivantes. Quels sont ceux qui marchent ensemble habituellement? Quelles sont les personnes ou quels sont les groupes de personnes laissées en marge ou de fait? Et selon Mgr Dabiré,
la réponse à ces questions peut nous aider à opérer des changements pour gagner en termes de collaboration fraternelle et de synergie efficiente au profit de notre conférence. Toujours approfondir la communion comme l'essence même de l'Église et la synodalité comme le style ou la méthode de son agir.
Bien apprécié des participants, cette rencontre du personnel de la CEBN s'est achevée par une célébration eucharistique sous la présidence de Mgr Dabiré et des agapes fraternelles à la suite. Paul Da, Ouagadougou pour Radio Vatican.
La commission diocésaine Justice et Paix de l'archidiocèse de Beira, dans le centre du Mozambique, a tenu une session de formation des enseignants du primaire et du secondaire à la prévention des unions prématurées dans la ville de Beira. Selon le coordinateur de cette commission, le père Jean de Dieu, missionnaire d'Afrique, cette activité fait partie du projet d'éducation à la paix, à l'autonomisation, au plaidoyer et à la réconciliation. Une action qui a été menée par cette commission dans certaines écoles de la ville de Beira et dans des communautés de différents districts de la province de Sofala, et le choix de ce groupe cible permet d'atténuer le mal des mariages précoces par l'éducation. Voilà pour les nouvelles de l'Église. Place à présent à notre page sur l'actualité sociale et politique en Afrique. En Ouganda, le ministre de la Santé a annoncé mardi la présence d'une épidémie du virus Ebola qui a provoqué la mort d'un homme dans le district de Mubende, au centre du pays, 3 ans après le dernier décès recensé. Ce cas provient d'une souche relativement rare, dite soudanaise, qui n'avait plus été signalée en Ouganda depuis 2012, a précisé l'OMS Afrique, indiquant avoir déployé une équipe et du matériel pour aider dans les investigations et la riposte. Des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité probablement commis en Éthiopie, où une guerre civile fait des ravages depuis 2020. C'est ce qu'a révélé lundi un rapport destiné au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, Adélaïde Patrignani.
La commission qui a rédigé ce rapport se dit profondément troublée de ce qu'elle a vu, explique-t-elle. Cela reflète une profonde polarisation et haine entre les ethnies en Éthiopie, d'où un cycle inquiétant de violences extrêmes avec des représailles et un risque imminent de nouvelles atrocités encore plus graves, s'alarment les experts. Il y a des motifs raisonnables de penser que dans plusieurs cas se sont produits des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, écrivent-ils. Ce n'est pas la première fois qu'un rapport dresse ce constat. Déjà en novembre 2021, la Commission éthiopienne des droits humains et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits humains lançaient l'alerte. Mais sur le terrain, la situation n'a pas changé. Depuis novembre 2020, le conflit oppose le gouvernement fédéral du Premier ministre Abiy Ahmed aux rebelles tigréens du Front de Libération du Peuple du Tigré, qui contrôle cette région du nord de l'Éthiopie. Après 5 mois de trêve, les combats ont repris fin août dernier. Le nombre de morts est inconnu, mais il y aurait 2 millions de déplacés et 90% de la population du Tigré a un besoin urgent d'assistance. La commission auteure de ce rapport va continuer son enquête jusqu'en décembre. Elle émet aussi des recommandations, par exemple, que les auteurs de ces exactions soient jugés.
Merci Adélaïde. Cap vers le Tchad. Le chef de la diplomatie tchadienne a annoncé lundi sa démission en accusant les autorités militaires au pouvoir de le reléguer à un rôle de figurant dans une lettre adressée au président tchadien. Une annonce qui intervient alors que se poursuit le dialogue de réconciliation nationale ouvert à N'Djamena il y a un mois. Sherif Mahamat Zene a été le principal négociateur du pouvoir dans les longues et pénibles tractations ayant abouti le 8 août à un accord de paix à Doha avec une trentaine de mouvements rebelles. La Guinée équatoriale a aboli la peine de mort. L'annonce a été faite lundi par la télévision d'État, citant une loi promulguée par le président Teodoro Obiang-Nguema Mbasogo. Auparavant, les condamnés à mort étaient habituellement exécutés par balle par des militaires. Selon Amnesty International, la dernière exécution officielle dans ce pays remonte à 2014. Poursuivons notre programme avec la seconde partie de l'entretien avec le Premier ministre ivoirien, Monsieur Patrick Achi, à l'occasion de la visite officielle du président Alassane Ouattara au Vatican. Après les relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la Côte d'Ivoire, Monsieur Achi continue de nous parler de la question de la réconciliation nationale en mettant cette fois un accent sur la contribution des confessions religieuses en Côte d'Ivoire.
Quelle a été la part de l'Église catholique dans ce processus de réconciliation, dans cette paix retrouvée en Côte d'Ivoire?
C'est d'abord l'opportunité de remercier d'abord tous les Ivoiriens. Comme je le disais, le président de la République en tant que président a été un acteur majeur de ce processus. Il y a eu des décisions importantes à prendre. À certains moments, je vais mettre des positions ou des actes courageux à prendre. Il les a prises. Mais également, il faut remercier non seulement l'Église catholique, mais toutes les confessions religieuses. Parce que je pense que vraiment le terme interreligiosité, qui est très usité ici au Saint-Siège et pour lequel le pape se fait le chantre, est une réalité en Côte d'Ivoire. Cette capacité qu'on a de voir, malgré la crise, malgré les tensions, de voir qu'à aucun moment, je dirais, le religieux ne s'est invité dans des crises. Elle a su rester à sa place, d'être une source d'inspiration et de spiritualité dans lequel les populations, je dirais, trouvent le réconfort et trouvent la force, je dirais, de continuer à se lever au-dessus d'un certain nombre de choses pour pratiquer la tolérance qui est enseignée dans chacune de ces religions-là. Donc oui, l'Église catholique a joué son rôle, la communauté musulmane a joué son rôle, enfin l'Église chrétienne d'une façon générale, mais la communauté musulmane ainsi que toutes les autres communautés sont à saluer dans le fait qu'elles aient su en toutes circonstances contribuer à faire avancer la paix le dialogue, je dirais, dans le pays. Et je pense que, à travers leur guide respectif, le cardinal Coutois, ami du président, était de ce voyage. Il a également participé à la messe, le président du COSIM. Tous ces acteurs-là sont eux-mêmes en Côte d'Ivoire dans un cadre qu'ils ont mis en place, qui est un cadre d'interreligiosité où, en dehors du monde social, associatif, se voient régulièrement pour échanger sur un certain nombre de faits de société afin qu'ils puissent apporter leur meilleure contribution à cet apaisement. Que ce soit le monde politique, que ce soit le gouvernement, que ce soit les différentes confessions ou que ce soit les populations, tout simplement, c'est notre responsabilité à chacun d'entre nous dans le pouvoir que nous avons, dans les activités que nous menons, de concourir à ce que nous puissions être un havre de bonheur et de prospérité qui fasse envie, qui soit un pays de paix, d'accueil, qui soit également quelque chose d'envié et de reconnu, parce que c'est ça, cette richesse dans la diversité, dans la paix, dans la joie et dans la foi, c'est ça qui nous permettra de poursuivre le chemin que la Côte d'Ivoire a eu de développement pour nous-mêmes et pour les générations futures.
Alors, au thème donc de cette audience avec le Saint-Père, peut-on s'attendre à une prochaine visite du pape François en Côte d'Ivoire ?
Oui, je pense que sans avoir été dans l'intimité du bilatéral qu'il y a eu entre son Excellence Monsieur le Président de la République et sa Sainteté le Pape, j'ai des raisons de penser que cet entretien n'a pas pu s'achever sans que Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, invite le Pape pour une visite en Côte d'Ivoire.
Nous concluons votre mot de la fin, Monsieur le Premier ministre.
Mon mot de la fin, d'abord à titre personnel, je suis extrêmement, je dirais, émerveillé de la chaleur de l'accueil que la délégation ivoirienne a reçu. Je voudrais simplement souhaiter que ces relations, bien sûr, se raffermissent encore plus pour que le Saint-Siège, qui est une institution extrêmement importante dans le monde, soit sensible à tous les plaidoyers que le président de la République a pu faire pour apporter des solutions à la recherche de la paix et du développement dans le monde. C'est vraiment ce que je voudrais souhaiter, ce pour lequel on a prié, la paix en Côte d'Ivoire, la paix sur le continent africain, la paix dans le monde, pour que le monde soit demain plus joyeux, plus gai, plus prospère.
C'était le Premier ministre ivoirien Patrick Achi qui revenait au micro de Françoise Niamien sur la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, l'un des sujets abordés par le président ivoirien lors de ses entretiens au Vatican le samedi 17 septembre dernier.
Vaccin pour tous.
Comment savoir si l'on est malade de la COVID-19 ? Thibaut Ribard a posé la question au docteur Boniface Mbokassa, chef de centre de prise en charge COVID-19 au Centre national universitaire de Bangui en Centrafrique. On écoute.
Sur le plan purement clinique, c'est une grippe importante avec tous les signes, céphalée, la fièvre, le maux de tête et surtout une anosmie, c'est-à-dire la perte de l'odorat. Ce sont là les signes pathognomoniques de la COVID-19. Mais pour être sûr, pour poser le diagnostic sûr et maintien de la COVID-19, c'est l'examen biologique, le PCR. Donc juste un petit prélèvement au niveau nasal et buccal vous permet de poser le diagnostic sûr de cette maladie-là. Mais on peut aussi faire la radiographie pulmonaire pour voir l'intensité, l'importance de cette maladie, puisque c'est une maladie pulmonaire, et surtout le scanner qui va nous apprécier totalement la gravité, l'étendue de la lésion au niveau pulmonaire, et ça va nous guider sur la voie de la prise en charge.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Mesdames et messieurs, amis auditeurs, c'est ici que s'achève cette édition de notre programme que Christian Kombé a eu le plaisir de vous présenter. Et merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Le prochain rendez-vous, c'est demain, même heure, même fréquence et même radio.
Sans suo come suo.